Je vous propose qu'on démarre. Je pense que si vous choisissez SEGF, il y aurait un jour une chose qui serait super sympa à voir, c'est qu'à la fin de vos études au sein du département, vous ne soyez pas dans la deuxième partie de l'amphi, mais vous soyez dans la première partie de l'amphi. C'est quand même plus sympa pour vous, pour voir, et pour discuter, pour interagir. Donc, on va passer quelques temps ensemble. Il y a d'abord une présentation un peu générale. On va bien évidemment répondre à vos questions et on espère que vous aurez plein de questions et que ce qu'on va vous raconter va vous intéresser et justifier tout ceci. Il y aura aussi des témoignages d'élèves de SEGF qui nous ont pardonné le fait d'être passés par chez nous et qui eux-mêmes ont trouvé qu'il y avait des choses intéressantes à faire. On va vous donner un état des lieux, on va vous donner aussi quelques idées sur la philosophie du département, qui est quand même relativement en rupture par rapport à tout ce que vous avez pu faire jusqu'à présent, puisque c'est quand même une nouvelle matière, une nouvelle série de matières, des approches, des perspectives, etc. Et puis il y a quand même un certain style aussi au département, et il faut qu'on essaye de vous expliquer à peu près à quoi ça ressemble. Alors, ça c'est le CV, bon, peu importe, mais ce qui est derrière, c'est l'endroit où j'étais jusqu'à ce matin. C'est-à-dire, c'est les environs de Montréal. Donc, si vous trouvez que je prends un peu de temps en temps un accent que vous n'arrivez pas totalement à suivre, c'est que ça faisait 5 semaines que j'étais là-bas et que c'était quand même assez sympa. Bon, moi, je suis le prof de stratégie depuis que le cours de stratégie financière existe. Et puis, au bout d'un certain temps, on m'a dit « Ah, mais ce serait bien que tu t'impliques un peu plus, que tu deviennes président du département. » Et puis, j'étais à ce moment-là universitaire et on m'a même fait venir ici. Donc, vous avez deux présidents de département qui sont temps plein ici, qui sont Alain Herlaché pour GMM et moi pour SEGF. Alain et moi, d'ailleurs, on fait partie des membres élus du conseil d'administration de l'école. Donc, on a travaillé sur des choses intéressantes du genre protéger l'école contre quelques agressions extérieures, tentatives d'OPA hostile, etc., etc. Mais enfin, a priori, ça a marché. J'ai fait mes études dans cette maison, mais pas tout à fait ici, du côté de la rue des Saint-Pères, le passage Amnoisy-Champ étant probablement une erreur historique, mais ça peu importe. Et puis, après avoir fait un certain nombre de choses, après mon MBA à l'INSEAD, dans diverses maisons américaines et françaises, où j'ai été contrôleur, trésorier, directeur financier, etc., je suis devenu enseignant, en passant la grègue, et puis, enfin, la thèse et la grègue, etc. Et puis, aujourd'hui, je suis ici, et c'est une maison tout à fait sympa. Voilà. Alors, le département... Donc, j'en assure la responsabilité depuis quelque temps. Abdelkader est arrivé il y a un peu après moi, finalement, hein, au passage, et donc est directeur académique, et on fait l'essentiel de tout ce qui est l'ingénierie pédagogique, le design, etc., etc., tous les accords internationaux dont on va vous parler. Bien évidemment, il y a deux personnes qui assurent aussi au quotidien un support tout à fait important, dont Sandrine Calvary, qui n'est pas là ce soir, mais qui est quelqu'un de tout à fait merveilleux, et qu'on partage d'ailleurs avec GMM en tant qu'inspectrice des études, Josiane pour la dimension secrétariat, et bien évidemment pour toute la dimension documentation, etc., il y a Delphine. Bon, peut-être que avant de vous présenter plus avant les centres de recherche et puis tout ce qui est structure, parcours pédagogique, etc., ici vous allez faire de l'économie et de la finance dans une logique relativement quantitative. Mais on ne fait pas des mathfi pour les mathfi. Alors, vous avez probablement déjà vu un certain Éric Dussault, avec lequel, et puis Mohamed, avec lesquels on s'entend extrêmement bien. Mais il y a quelque chose qui est très important à comprendre, c'est quelle est la différence entre IMI et SEGF. Et si vous comprenez, je dirais qu'à l'origine de l'acte de construire, il n'y a pas simplement de la technique, du béton, des matériaux, etc., etc., mais il y a des gens, il y a des territoires, il y a de l'économie, il y a du développement, etc. Quand vous arrivez chez SEGF, vous vous intéressez à qu'est-ce qui fait qu'il va se passer quelque chose qui va contribuer à la création de valeur, que ce soit une création de valeur économique pour l'ensemble de la population, ou que ce soit une création de valeur financière pour un investisseur qui va aller apporter des ressources financières à un projet. Si vous êtes du côté IMI, vous allez aussi faire du quantitatif, mais l'actif va plutôt être une espèce de série statistique de rentabilité et risque. C'est bien évidemment beaucoup plus sophistiqué que ça. Mais si vous voulez, chez IMI, vous faites de la finance quantitative au sens du trading, au sens de l'activité de marché. Et ça mène à des métiers qui sont tout à fait intéressants et qui sont parfaitement justifiables, hein, y a pas de problème. Mais c'est simplement l'actif en lui-même, si vous voulez, n'est pas très passionnant. C'est plutôt ce que l'on peut observer du comportement de l'actif que l'on va modéliser. Et donc le modèle mathématique est un peu une fin en soi. Alors que si vous venez chez SEGF, vous allez faire aussi de la finance quantitative, vous pouvez très bien aller faire du trading après, mais vous allez faire du corporate finance, vous allez faire de l'économie appliquée, vous allez construire des projets et comprendre que derrière un diagramme risque-rendement, si vous voulez, derrière un point que vous allez pouvoir observer, il y a une réalité économique, il y a des gens, il y a des business, il y a des produits, il y a des acteurs d'un système économique, etc. Donc nous, on est beaucoup plus dans la compréhension du système économique et financier qu'il y a derrière un certain nombre d'objets qui font l'objet de valorisation. Quand vous allez regarder du côté d'IMI, vous allez être beaucoup plus dans la logique. C'est moins important de comprendre d'où ça vient. Ce qui est important, c'est de voir comment ça se projette sur un marché, comment ça se valorise sur un marché, comment on peut le modéliser sur un marché. Donc ça, c'est très important. À part ça, si vous décidez d'aller chez IMI, ce qui est parfaitement justifiable, et que vous voulez prendre des cours d'SEGF, hein, entre Mohamed et Abdelkader, ils vont vous faire un petit cocktail sympathique et il n'y aura aucun problème. Si vous décidez d'aller chez SEGF et d'aller prendre des cours chez IMI, alors vous allez avoir Abdelkader et Mohamed qui vont vous faire un petit cocktail et ça marchera très bien. Parce que, si vous voulez, on n'est pas cloisonné, c'est pas vertical, on est en coopératif, on s'entend très bien. Quand les personnes s'entendent très bien, en plus, ça améliore un peu les choses. Donc, de temps en temps, quand on discute tous les quatre avec Eric Dussault au milieu de tout ça, on se marre et on se dit, une telle ou un tel, on ne sait pas très bien chez qui elle est. Hein. Ça peut être d'un côté ou de l'autre, peu importe. Mais ce qui est important, c'est que vous compreniez que si vous voulez mettre plutôt l'emphase sur le contenu économique, la réalité économique des choses qui donne lieu à valorisation et à optimisation de la valeur, c'est plutôt chez nous. Si vous êtes plus fondu de modèles mathématiques, la dimension quantitative de la chose, etc., et que ce qui vous intéresse, c'est vraiment plutôt l'opération de marché plutôt que la réalité économique qu'il y a derrière, alors c'est plutôt chez IMI. Oui. Mais d'un côté, vous ferez un peu de l'autre, et de l'autre côté, vous ferez un peu de l'un. Hein. Il n'y a pas de problème. Alors, il y a un truc qui est très important, et pour vous, ça... Pardon. C'est peut-être pas très éclairant, mais l'économie dans un certain nombre d'écoles d'ingénieurs, c'est un by-product. Hein. C'est-à-dire que bon, bah, il faut bien leur donner un peu de cours d'économie. Alors en général, on leur dit, ah, on va leur faire de la gestion, alors on leur fait de la compta. Ça, c'est le meilleur moyen de vous dégoûter de la gestion. Et puis, etc. Ici, l'économie, ce n'est pas un satellite. Ici, l'économie, c'est une tradition. Et c'est quelque chose qui est considéré comme encastré dans l'histoire de l'école, avec quelques grands anciens qui ont pas mal réussi. Mais c'est encastré et on considère que l'acte de construire, les matériaux innovants, l'urbanisme, les territoires et l'économie, ça ne fait qu'un. Si vous voulez, c'est pas juste on va rajouter un peu d'économie à un truc. Ça doit être partie prenante au même titre que les autres disciplines. Et donc on a une vraie tradition là-dessus. Alors il y a un gars qui a inventé le calcul économique et vous verrez pourquoi on en reparlera tout à l'heure, qui s'appelait Jules Dupuis. Et qui a fait son premier cours d'économie ici en 1847. D'ailleurs, il va falloir qu'on essaye de trouver un moyen de fêter les 170 ans. Enfin, bref. Et donc, à peu près 100 ans après la création de l'école. Mais si vous voulez, 1847, ça veut dire que on a une légitimité. Et quand on parle à un certain nombre de partenaires extérieurs, bon, évidemment, Jules Dupuis a été légèrement amélioré au niveau de la théorie économique. Mais tout le monde respecte l'école des ponts comme un endroit où on fait de l'économie depuis très longtemps et où c'est pas juste une espèce de mode, tiens, pour attirer les élèves, on va faire de l'économie. Ici, ça fait partie des choses absolument fondatrices. Alors en plus, il y a un monsieur qui a eu le bon goût, l'honneur et l'avantage d'avoir le prix Nobel d'économie il n'y a pas longtemps, et qui, bien évidemment, a fait sa thèse au MIT, mais qui a commencé à étudier l'économie sur ses bancs, et puis qui ensuite a commencé à faire sa recherche en économie ici, est allé faire sa thèse au MIT, est revenu au CERAS, qui était le département de recherche d'économie de l'école des ponts, qui est devenu l'école d'économie de Paris avec le CEPREMAP et autres, je ne vous passe les détails. Et puis après, il est parti au MIT, il est revenu à Toulouse, et il est venu faire une conférence ici, dans une ambiance chaleureuse, il y a 2 ans. Alors, ce n'est pas de la macroéconomie, vous voyez, c'est pas très très loin de la microéconomie. Macroéconomie, c'est PIB, inflation, etc., etc. C'est pas nécessairement que de la microéconomie au sens comportement des acteurs. C'est quelque chose qui est un peu au milieu, qu'on appelle mésoéconomie ou qu'on appelle économie industrielle. Et donc, c'est la régulation, le transport, la tarification et tout ce genre de choses. Pour vous donner un ordre d'idée, je fais partie de la commission consultative aéroportuaire. On calcule, enfin, moi j'ai la charge à l'intérieur de la commission de calculer le coût du capital des aéroports. Parce qu'il ne faut pas que les aéroports ils facturent trop aux compagnies aériennes qui viennent atterrir. Donc ça, c'est typiquement de la régulation, c'est de l'économie industrielle. Et c'est quelque chose qui est tout à fait important. Dans les laboratoires de recherche qu'on peut avoir, on en a deux. Un qui est top 10 dans les laboratoires de recherche mondiaux qui s'appelle l'économie de Paris. Il vient d'inaugurer un très très beau bâtiment d'ailleurs. J'y étais pas parce que j'étais à 5600 km, c'était un peu loin. On fait des tas de choses avec Paris School. Et puis pour tout ce qui est développement durable, ça c'est quelque chose de tout à fait important, le CIRED. Le cours d'économie de l'environnement est toujours fait traditionnellement par le directeur du CIRED. Et le CIRED, ça a été le centre de recherche, si vous voulez, qui a été mobilisé pour faire le calcul économique de la COP21. Donc ce sont des gens qui sont très crédibles dans tous les domaines, type développement durable, environnement, etc. Alors, il y a deux types de parcours SEGF. Vous avez le parcours d'ingénieur économiste et vous avez le parcours d'ingénieur financier. Il y a pas mal de points communs entre les deux. Au niveau des parcours type économie, alors la 2A, il y a une 2A économie qui se fait ici. Et puis derrière, vous pouvez faire votre 3A, surtout si vous avez envie de faire de la théorie économique. Là, c'est l'école d'économie de Paris, il y a un gars qui s'appelle Piketty qui a fait un bouquin, qui a fait un peu de bruit, etc. Et surtout, sur l'aspect, ça s'appelle analyse des politiques économiques, si vous voulez. Et si vous avez, par exemple, envie de faire une thèse en économie, c'est l'endroit idéal parce que vous allez avoir une réputation mondiale. Bernard Caillot est le co-directeur avec Jean-Olivier Hérault. Et Bernard Caillot est un professeur de l'école des ponts. C'est mon suppléant au conseil d'administration, au passage, d'ailleurs. Et on a un accès tout à fait privilégié. À ce moment-là, c'est une des 3A économie qui est un grand classique dans la maison. Voilà. Au passage, merci. Ensuite, vous avez la partie économie du développement, donc politique publique et développement. Et là, si on vous a mis Esther Duflo, c'est que Abdelkader avait invité Esther Duflo il y a un an, à venir faire une conférence. Et là, on est beaucoup plus dans la logique développement économique, politique publique, etc. Donc là, c'est l'économie, mais au sens économie du développement et promouvoir le développement économique. Et il y a donc dans le parcours ingénieur économiste, il y a aussi la possibilité d'aller faire PPD. Sinon, ça, c'est ce qu'on va créer. Donc il y a un M1 et un M2. Ça va donc être un parcours en 2 ans. Vous allez être concerné parce que le M1 s'ouvre aujourd'hui à l'école polytechnique, mais le M2 va s'ouvrir à l'école des ponts. On est en discussion sur le contenu et tout ce genre de choses. Et ça va s'appeler Transportation, Real Estate and Urban Economics. Tous les M2 vont être... Tous les M2 sont en anglais, au passage. D'ailleurs, toutes les troisièmes années sont en anglais. Je viens d'un territoire qui s'appelle le Québec, où il faut tout traduire en français. C'est pour ça qu'au Québec, Kentucky Fried Chicken s'appelle le poulet frit du Kentucky, si vous voulez. Mais à part ça, tout est en anglais à peu près partout. Et là, malheureusement, donc on va le faire avec l'IX et avec l'ENSAE. Eux ont la charge du M1. La deuxième année de l'école, c'est l'équivalent M1. Et nous allons piloter le M2. Et justement, j'étais en train de discuter il y a quelques jours sur des aspects Learning Expedition pour qu'on vous fasse faire de l'économie appliquée avec l'aspect théorique et avec l'aspect pratique, c'est-à-dire rencontrer des gens en Amérique du Nord, en Amérique du Sud. Bon, on va y revenir sur les aspects développement de territoire, innovation, cluster et tout ce genre de choses. Dans les autres ouvertures, Economic Decision and Cost-Benefit Analysis, donc là, c'est le calcul économique. Bien évidemment, ça va se faire avec PSE. Donc là, on est nous seuls co-accréditants avec nous-mêmes, mais avec le support et avec la validation scientifique et avec le travail qu'on fait avec PSE au quotidien. Donc, c'est du calcul économique. Mais c'est du calcul économique qui va être appliqué à un certain nombre de secteurs dans la dimension publique et dans la dimension privée. C'est-à-dire que le calcul économique, aujourd'hui, est une compétence dont on a de plus en plus besoin dans un environnement d'incertitude, si vous voulez. Et puis, ce n'est pas simplement que du calcul, c'est aussi l'acceptabilité sociale des projets, sociale et sociétale des projets, c'est aussi la dimension sociologique des organisations, c'est un peu l'ensemble de ces choses-là. Alors, il y a 2/3 d'économie et 1/3 de la mise en œuvre de la chose. Mais ce qui est intéressant, c'est que sont intéressés par cette formation des donneurs d'ordre public et des donneurs d'ordre privé, notamment des grandes entreprises dans le domaine des télécoms, dans le domaine de l'infrastructure et dans le domaine de l'énergie, bien évidemment. On est en train de travailler sur les aspects double diplôme. Tu veux dire un mot là-dessus avec Sciences Po. Et Sciences Po veut se rapprocher, notamment pour tous les aspects public affairs, et notamment avec Columbia. Je vais vous redire un petit mot tout à l'heure de Columbia, puisqu'on a un rapprochement et une amitié très forte. Le référent, c'est Abdelkader. Il sera capable de répondre à toutes vos questions sur l'aspect Sciences Po, puisqu'il enseigne aussi à Sciences Po. Et il pourra vous dire tout ça et répondre à vos questions. Ensuite, dans l'aspect ingénieur financier. Dans l'aspect ingénieur financier, vous avez deux images qui sont importantes. Vous avez la photo d'un monsieur qui s'appelle Suleiman Kachani, qui est le Vice Provost de Columbia, qui s'occupe du département Industrial Engineering. Et on a une tradition, c'est que tous les ans, une cohorte assez significative d'élèves vont faire un petit tour à Columbia en Master of Science. Soit ils prennent Master of Science and Engineering, etc., Management Science and Engineering, avec notamment un cours sur l'aspect consulting qui est fait par Suleiman et qui est tout à fait remarquable, ou alors ils prennent Financial Engineering. Alors, résulte tous les ans, quand moi je vais à Montréal, j'en profite et je prends le RJ145 d'Embraer. Si je vous le dis, c'est que c'est toujours un moment d'une grande émotion, parce que vous vous demandez si vous entrez là-dedans, si vous arriverez à en ressortir, pour aller à Columbia. Et à Columbia, c'est assez sympa, mais on a peut-être tous les ans entre 8 et 10 élèves. Okay. L'essentiel viennent des SOGF et on a une petite discussion. Alors en ce moment, comme vous savez, aux États-Unis, c'est un tout petit peu compliqué parce qu'il y a un gars qui n'aime pas trop les gens qui ne viennent pas nécessairement que du coin, etc. et qui tente d'imposer un certain nombre de lois sur l'immigration. Alors on ne sait pas du tout ce que ça va donner, mais une des idées qui traîne, c'est que nous aurons l'autorisation. Quand vous avez fait vos études, vous avez le droit de prolonger pour au minimum 1 an, 18 mois, 2 ans, 3 ans, etc. Ça dépend. Et l'idée qui traîne, c'est que on autorisera les élèves à continuer, qu'à partir du moment où les anciens élèves à continuer, qu'à partir du moment où ils justifient d'un niveau de salaire à la fin de leur première année de travail post-études. Vous avez tout de suite une idée de l'aspect quantitatif de la chose. Et donc le minimum serait de $100,000 par an. Alors quand j'ai discuté avec vos camarades de Management Science, ils m'ont dit à la fin de la première année, c'est un peu dur, il faudra quand même attendre au minimum 2 ans, 2 ans et demi, etc. Et puis celui qui était en Financial Engineering a dit, oh, à la fin de la première année, c'est pas un problème. Donc voilà. Alors, ça, c'est tous les aspects. Alors, ce qu'on appelle Financial Engineering, c'est un peu finance quantitative, finance de marché chez nous. Hein. Mais ça marche relativement bien. Vous avez une deuxième image qui est le viaduc de Millau. Parce que la personne qui a créé le Master Infrastructure Project Finance, c'est Michel Dumoutier. Et Michel était avant directeur financier de la direction des infrastructures d'EFAGE. Et c'est lui qui a fait le financement du viaduc de Millau, des autoroutes portugaises, etc. Et c'est pour ça que ce Master se porte très bien. Il se porte très bien et on est en train de construire, de formaliser le partenariat avec Columbia. C'est-à-dire que vous avez un Master of Science qui va s'appeler Gestion de projet, Gestion de grands projets, qui est fait par Columbia. Nous, on fait le master sur le financement des grands projets. Et en fait, les élèves vont être recrutés pour le cycle de 2 ans. Et donc, cet hiver, on était en train de discuter, l'accord est en train de se faire finaliser dans son deuxième round sur le service juridique de Columbia, et il n'y a plus de problème. Et donc, il va y avoir des élèves qui vont faire les deux, venant de chez eux et venant de chez nous. Et ce qui est intéressant, c'est que comme les cours vont être, bien évidemment, intégralement en anglais, il y a une certaine motivation de la part de Columbia pour nous dire on devrait avoir, je ne sais pas, 5, 6, peut-être 10 étudiants qui viendront de Columbia pour aller faire leur deuxième année de dual degree chez nous. Donc ce qui est intéressant, c'est que vous allez avoir à ce moment-là un diplôme qui est un diplôme de troisième année, qui est en partenariat avec Columbia. Et nous, à SEGF, on a toujours considéré qu'il était fondamental que vous ayez une partie internationale dans votre parcours académique. Abdelkader en est témoin, c'est pas gagné. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu un certain nombre de personnes, y compris dans cette merveilleuse école, mais aussi dans d'autres écoles d'ingénieurs, pour aller dire non, il faut qu'ils restent là tout le temps. Et ils étaient partisans d'aller vous piquer le passeport à l'entrée de la première année, de ne vous le rendre qu'avec le diplôme. Donc nous, on s'est un peu battu contre ça. Par contre, il y a quelque chose qui est tout à fait intéressant, c'est que comme il va y avoir probablement des difficultés plus ou moins liées au fait de visas, de transport de personnes, etc., parce que aujourd'hui la jeunesse elle est mondiale, mais le politique est assez local, vous voyez, il y a un léger décalage, hein, mais on pourra en reparler si vous voulez. Moi, je pense que ce qui est intéressant, c'est d'aller construire un certain nombre de formations qui sont ici et sur lesquelles vous avez la possibilité de combiner de l'international et ici, de telle sorte que vous ayez le passeport mondial. Parce que si pour toutes ces institutions, l'École des Ponts, c'est une institution tout à fait remarquable au niveau de l'économie et de la finance, pour un entrepreneur, pour une entreprise, si vous voulez, École des Ponts égale économie, vous voyez, c'est pas tout à fait gagné. Donc il faut que quelque part, on soit capable, sur votre diplôme d'économie et de finance, de rajouter quelque chose qui est avec Columbia, avec la LSI, avec Berkeley, avec etc. Donc ça, c'est quelque chose de tout à fait important. Quand j'ai fait j'enseigne aussi à Fontainebleau, à l'INSEAD, et quand j'ai fait mon premier cours en anglais à l'INSEAD il y a quelques années, ils ont cherché à traduire mon CV, et ingénieur civil des ponts et chaussées, c'est devenu civil engineer bridges and walkways. Donc si vous voulez, le jour où les gens ont vu arriver le prof de corporate finance comme ça, ils se sont dit qu'est-ce qu'il vient foutre dans l'histoire, etc. Donc il faut expliquer, et le meilleur moyen d'expliquer, c'est de dire que le programme, le diplôme, le parcours complet est en partenariat avec une maison pour laquelle il n'y a pas de doute, mondialement, c'est une maison qui est parfaitement positionnée. Abdelkader connaît bien les gens de Berkeley et est allé négocier des accords privilégiés avec Berkeley. Notre objectif, si vous voulez, c'est de pas avoir des milliers d'accords, mais d'avoir un accord côte ouest, un accord côte est, un accord LSI, un accord, etc. Et puis après, d'aller du côté de l'Asie, bien évidemment, et aussi de l'Europe de l'Est. Et donc, financial engineering, c'est la partie, et puis aussi, on va regarder aussi les aspects transport, etc., avec Berkeley, qui est une maison tout à fait remarquable. Autrement, on a un double diplôme, on en a déjà un peu parlé avec Sciences Po, on a un double diplôme avec HEC, ce qui fait que vous faites première, deuxième et troisième année au pont, et vous faites deuxième et troisième année à HEC, alors dans un ordre à définir, bien évidemment, après la première année, 2-3-3, 2-3-2-3, ou 2-2-3-3, enfin bon, etc. Moi, je trouve que c'est bien. Hein, il n'y a pas de problème. On vous aide d'ailleurs dans le processus de recrutement parce qu'il faut passer un entretien, il y a un jury, il y a un truc un peu bizarre, etc. Donc on vous prépare à ce genre de choses et en général on vous y prépare relativement bien. À titre personnel, je considère que faire deux années de plus à HEC, bon, c'est pas un changement culturel phénoménal de passer de Noisy-Champs à Jouy-en-Josas, si vous voulez. Hein. Et donc moi, je privilégie assez fortement. Hein, une certaine vision, une certaine diversité, aller voir ailleurs, quoi. Hein. Donc là, évidemment, vous êtes sur la future ligne du RER, si vous... mais enfin, c'est pas génial. Bon. Alors, sauf que à HEC, il y a deux ou trois endroits qui sont vraiment très bien. Il y a quelque chose en entrepreneurship, on est en train de monter ça, mais c'est vrai qu'en entrepreneurship, ils sont très très bons. Hein. Il y a une excellente formation. Et puis, dans l'aspect entrepreneurship, vous avez aussi l'entrepreneuriat social. L'entrepreneuriat social et solidaire. Donc, Daphné, par exemple, elle est en train de terminer son cycle, et elle avait une idée extrêmement précise sur les aspects entrepreneuriat social et solidaire, et là, il y a quelque chose de très bien. Donc, ça peut être quelque chose d'intéressant. Quand 10 élèves candidatent au double diplôme HEC, il y en a 8 qui sont reçus, si vous voulez. Puis, donc, on a une bonne crédibilité, et puis en plus, on les prépare, donc ça va, mais c'est un peu marginal. Sinon, il y a un certain nombre de parcours qu'on a développés avec, soit avec PSL pour l'aspect entrepreneuriat, soit en interne avec IMI pour tout l'aspect business analyst. Et là, c'est la conséquence du fait qu'on se connaît bien. Et donc, parcours, compétences, vous voyez tout de suite l'aspect data science, machine learning, deep learning d'un côté, l'aspect économique, financier de l'autre. Il y a des choses sur lesquelles on pourra revenir. Bon, les cours, on va peut-être passer. Je crois que c'était important que vous ayez un peu une idée de ce que vous pouvez faire, de la philosophie hein, qu'il y a derrière ça, et d'une espèce d'approche qui est orientée vers quelque chose qui est nouveau par rapport à ce que vous avez eu, puisque c'est économie, vous en avez eu un peu, et finance, vous n'en avez pas eu. Mais c'est quelque chose qui est à la fois très robuste scientifiquement, et qui est très tourné vers le monde, et qui est très tourné vers les entreprises. Beaucoup d'élèves, 99% des élèves, font une année de césure entre la deuxième et la troisième. Donc vous faites votre deuxième année, vous avez toute la théorie, vous allez voir deux environnements. Alors moi je dis toujours aux élèves, vous prenez deux parmi trois, hein, la banque, le conseil et l'entreprise. Et puis vous allez voir un peu à quoi ça ressemble. Vous avez une maturité entrepreneuriale, si j'ose dire, qui augmente. Et puis après, on décide ensemble quelle est la meilleure troisième année, etc. Et bien évidemment, on vous aide à choisir votre année et à choisir votre projet. Mais là, je vais conclure là-dessus. La deuxième et la troisième année, c'est tout à fait contraire. Enfin, vous oubliez ce que vous avez fait pendant 15 ans. OK ? C'est-à-dire, vous n'oubliez pas, hein, vous n'oubliez pas ce que vous avez appris. Vous êtes prié de garder un cerveau ouvert, tout ça. Bon, et avoir accumulé 2-3 bricoles. Mais la relation que vous avez avec les départements, et en tout cas, nous, c'est comme ça qu'on conçoit la chose, la relation, c'est on va vous aider, on va construire avec vous quelque chose qui est un projet. Vous aurez la possibilité 10 fois de changer de projet dans votre existence, mais il faut que vous ayez un construit et que ce construit vous amène à quelque chose qui soit intéressant pour vous, qui corresponde à vos valeurs, qui corresponde à ce que vous avez envie de faire, tout ce genre de choses. Donc on est dans la co-construction de votre projet professionnel, on n'est pas là dans un cours, etc., etc. Vous voyez ? C'est pour ça que quand je disais tout à l'heure un titre de plaisanterie, si vous venez à SEGF, j'aimerais bien qu'à la fin de votre processus, vous soyez au premier rang et pas au dernier. Quoi. C'est plus participatif et collaboratif. Ok ? J'ai oublié quoi ? Oui, et Île-de-France, il faudrait qu'on mette ça à jour parce qu'à mon avis, ça part de tous les sens. Hein. Bon. Enfin bref. Voilà, audit, conseil, administration, industrie, service. Pas mal de conseils en strat, genre McKinsey, Bain, Boston, etc. Ce genre de choses. Et puis bien évidemment, banque, assurance, services financiers. OK ? Avez-vous des questions ? Oui ? Et ben voilà. Alors, quelques obligatoires. Vous démarrez par un cours qui est une espèce de jeu d'entreprise, gestion d'entreprise, etc., etc. Donc, c'est une semaine. Hein, je dirais un peu d'initiation à ce que c'est que l'entreprise, la compréhension de comment on met en forme les données pour pouvoir faire de la prévision, c'est important. Donc, il y a un cours d'économétrie, il y a un cours d'application. Théorie de la décision, théorie des jeux, c'est fondamental. Et ça, alors évidemment, c'est un petit peu mathématique, mais la philosophie du cours, c'est quand même que quand vous prenez une décision, il y a un certain nombre de gens qui vont interagir par rapport à votre décision et qui vont modifier la manière dont vous allez prendre la décision initialement en prenant en compte ce que vont faire les autres. Typiquement, quand vous faites un investissement, et par exemple, vous allez créer une belle usine pour pouvoir réduire vos coûts de revient, ben, les concurrents ils vont réagir. Alors si vous faites une usine pour réduire les coûts de revient et que les concurrents font une usine pour réduire les coûts de revient, le client il est content parce que les prix de vente se sont écroulés, simplement vous avez tous fait des investissements à valeur actuelle nette négative, c'est un peu dommage. Concurrence et marché, c'est pour expliquer que il y a quelques imperfections par-ci par-là et qu'il faut essayer de bien regarder les types de marchés, comment ça fonctionne, etc. Donc c'est un cours d'économie assez fondamental. Et mon homonyme et prédécesseur en responsabilité sur ce département, Pierre Jacquet, fait le cours de politique économique internationale. Il est aujourd'hui président du Global Development Network à Delhi. Et il vient vous parler, là, plutôt sur l'aspect macroéconomique, mais au sens politique-économique, plutôt que macro-financière ou tout ce genre de choses. Ça, c'est l'obligatoire. Alors là, vous avez une liste de cours dans le parcours d'ingénieur économiste. Bon, bien évidemment, macroéconomie, économie de l'environnement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, CIRED. Hein, donc, c'était Jean-Charles Ourcade, c'est Franck Lecoq. Laurent Lamy, PSE CIRED sur l'aspect économie publique, donc tout ce qui est calcul économique, externalité, tout ce genre de choses. Annick Vigne pour économie des villes et des territoires, donc le territoire, comment le territoire, les clusters, l'innovation, comment tout ceci fonctionne. Bien évidemment, l'économie de l'immobilier, parce que dans l'acte de construction, l'économie de l'immobilier, avec l'ensemble des acteurs, qui soient les investisseurs, les promoteurs, les développeurs, etc. Économie des transports, RFF, donc tout ce qui est infrastructure de transport et l'impact sur l'aspect économique. Croissance et développement. Et puis, il y a un cours qui est co-assuré par Alan Rosen, qui pilote le MBA des ponts, Véronique Hélène, la D-School, et moi-même, sur l'aspect création d'entreprises innovantes, qui est en général un cours qui a un certain succès, parce que On nous dit toujours, quand on ouvre un cours, faut qu'il y ait au moins 12 élèves. La première année, on l'a fermé à 40. Et on vous fait imaginer un modèle, on vous fait pitcher, on vous fait rencontrer des VC, enfin, tout ce genre de choses. Donc voilà. Au niveau ingénieur financier, il y a malheureusement pour vous stratégie financière de l'entreprise, qui sera une grande souffrance avec moi-même. Et donc, sur c'est quoi la théorie et la pratique des grandes décisions stratégiques de l'entreprise, c'est-à-dire financier, c'est-à-dire le coût du capital, la valorisation des firmes, etc. Donc ça, tous les métiers du corporate finance et du corporate banking démarrent de ça et du cours qui est juste derrière, c'est-à-dire structuration des financements avec Henri Philippe. Donc vous faites de la théorie et un certain nombre de cas pratiques, et ensuite vous faites de l'application en ingénierie financière, mais ingénierie financière au sens corporate. Finance. L'aspect finance de marché vient avec Jean-François Delmas et Bernard Lapeyre, donc sur les aspects processus stochastique, aspects mathématiques, etc. Et ça, ce sont des cours qui sont très très communs, très très liés avec la dimension IMI. Deux cours du MBA, un cours qui est fait par Alan Rosen sur les marchés financiers, qui est un bon contrepoint au cours de stratégie financière, parce que finalement, c'est comment les marchés réagissent à un certain nombre de choses. Fusion-acquisition, bien évidemment, là aussi, c'est dans la logique ingénieur financier, corporate finance. On ne peut pas faire de finance sans faire du droit et un minimum de fiscalité, mais au minimum du droit, c'est-à-dire bien savoir quelles sont les différences entre la common law, le droit civil et tout ce genre de choses. Et puis, le cours de création d'entreprises innovantes qui est commun entre les deux. Faire, c'est... Puisqu'ils sont arrivés ici, voilà cinq anciens, ou actuels, on va dire, même. Enfin, ils ne sont pas si anciens que ça, hein, pour être très franc. Je vais leur demander de donner leur nom et puis de dire où ils sont. Et comme ça, ça pourra aussi augmenter les palettes de questions. Et puis, quand on aura terminé, on pourra tous continuer à bavarder en bilatéral.
Oui, ils vont commencer.
Ok, donc moi je m'appelle Laurent Tanverdas, je pense qu'il y en a qui me connaissent ici. Donc je suis dans le département SEGF dans le cursus finance. Donc juste pour commencer, j'ai pas de slide, donc du coup j'ai mon petit papier. Il faut savoir que en fait dans cette école vous avez vraiment la chance d'avoir un département qui est consacré à la finance et à l'économie. Donc il faut savoir que dans ce cursus, enfin vous l'avez vu avec Dominique Jacquet et Abdelkader. Il y a un parcours ingénieur économiste et un parcours ingénieur finance. Il faut vraiment comprendre qu'en fait c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est-à-dire c'est complémentaire au sens où, enfin vous, en première année, vous n'avez pas l'opportunité de faire de la finance. C'est-à-dire que peut-être que pour vous, ce que vous avez fait en économie, c'est de la finance, mais c'est pas vraiment le cas. Vous avez une introduction à la microéconomie, à la micro. C'est pas vraiment ce qu'on fait. Dans le parcours ingénierie financière. Donc typiquement, ingénieur financier, si vous allez regarder sur Wikipédia, ça va vous dire, un ingénieur, ça établit et optimise des montages de financement, blablabla, combinaison d'instruments financiers, financement d'opérations, financement de projets, fusion-acquisition, attention particulière aux risques financiers, à l'optimisation, rentabilité risque. Bon, c'est beaucoup de mots qu'on ne peut pas comprendre si on ne s'y intéresse pas. Donc du coup, pour ceux qui sont intéressés par le département SEGF et qui souhaitent faire de la finance, je vous invite dans un premier temps à aller vraiment vous renseigner sur ce que c'est la finance et comprendre que c'est pas de l'économie, enfin que c'est au service de l'économie. Donc en fait c'est vraiment une matière très 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 diverse. Donc, moi j'ai commencé à faire de la finance il y a 6 mois, donc je suis un bleu, j'y connais pas grand chose. Mais par contre on est allé visiter les salles de marché de la Société Générale il y a 2 semaines. Et on a eu une intervention de Arnaud Jacquemin, qui est secrétaire général adjoint du groupe. C'est un expon. Et en fait, il nous a un petit peu parlé de la banque et de l'industrie en général. Donc lui, il est passé par l'industrie et finalement, il a fini sur la banque. Et en fait, d'après lui, la finance, c'est vraiment la seule activité qu'il a rencontrée où il y a vraiment une multiplicité et une diversité des enjeux. Que ce soit des enjeux stratégiques, des enjeux de ressources humaines, de risques, etc. Donc pour lui, c'est vraiment un métier. Enfin, c'est vraiment une activité dans laquelle les ingénieurs ont leur place. Donc, c'est vraiment une opportunité pour vous d'avoir un cursus de finance à l'école des ponts. Donc, il y en a peut-être ici qui pensent que la finance, c'est mal vu parce que ça a été utilisé à l'excès, ou alors ça a été utilisé de manière abusive et ça a plongé l'économie en récession, ce genre de choses. Mais c'est pas parce que c'est arrivé que c'est ce que vous allez faire. Voilà, la finance est vraiment un outil qui peut être utilisé très intelligemment et qui est vraiment passionnant. Enfin, vous écoutez juste Dominique Jacquet une heure et vous allez être convaincu que la finance est géniale. Voilà. Je sais d'ailleurs. Voilà. Non, enfin, franchement, c'est vraiment un département qui ouvre beaucoup de portes. Donc, typiquement, que ce soit dans la finance d'entreprise ou dans la finance de marché. Donc, j'ai parlé avec un 2A qui est actuellement en stage à la BNP. Et il m'a dit vraiment, l'école des ponts, c'est vraiment une des seules où on est formé à la corporate finance. Voilà. Et les banques, en fait, adorent notre profil. Et parfois, ils manquent d'ingénieurs. Donc, c'est vraiment bon d'avoir un point de vue d'ingénieur pour travailler dans une banque en corporate finance. Donc, on a des cours pour ça, fusion acquisition, stratfi, structuration des financements. Voilà, c'est ce qui est affiché. Après, pour la finance de marché, donc il faut pas se dire que si on va en SEGF, on va avoir des cours pipo ou on va juste faire des additions et des soustractions. Il y en a. Enfin, pas des cours pipo. Hein. Non, je veux pas dire des cours pipo. Il y a beaucoup de soustractions, mais ça en fait pas un cours pipo. Non, mais en fait, ce que je veux vous dire, c'est qu'on a vraiment l'opportunité de faire des mathématiques. Moi, j'hésitais entre faire IMI. Enfin, je voulais faire de la finance, mais je savais pas si je devais le faire par IMI ou par SEGF. Et en fait, je me suis dit, ok, on peut faire de la finance dans les deux, mais peut-être d'un côté, on va avoir un point de vue plus programmation, et dans l'autre, on va avoir un aspect plus général sur la finance. Et en fait, finalement, il y a beaucoup. Par exemple, moi, actuellement, j'ai mon cours de finance aspect mathématique et numérique, et je trouve que j'ai un point de vue différent des IMI. Parce que j'ai suivi le cours de Financial Market Workshop. Donc c'est vraiment des cours qui viennent se compléter. Et est-ce qu'on a envie plutôt d'être dans la partie code ou est-ce qu'on a envie d'être plutôt dans la partie business? Et puis de toute façon, vous allez travailler avec des gens qui sont issus des parcours d'IMI. Et imaginez, ils vous parlent de trucs, de mouvements browniens, etc. et que vous ne les avez pas vus, bah, vous allez peut-être galérer pour comprendre ce qu'ils disent. Tandis que si vous avez déjà suivi une partie de leur formation, vous allez peut-être mieux fitter et travailler mieux avec eux. Voilà, donc on peut faire des maths en SEGF. On fait pas juste de la finance d'entreprise et de la finance de marché. En fait, c'est une formation qui est beaucoup plus générale et finalement, on s'ouvre à différents métiers, comme vous l'avez vu dans les slides précédentes. Il y a 44% des gens qui partent en finance de marché, dans les banques, mais il y en a quand même 21% qui partent dans le conseil. Et en fait, on a l'opportunité dans les départements de choisir des cours dans les autres départements. Moi, j'ai une formation qui est aussi axée sur la stratégie. Et donc, j'ai pu suivre des cours de recherche opérationnelle qui sont des mathématiques, donc théorie des graphes, ce genre de truc, et un cours de stratégie de l'entreprise. Donc, en fait, vous avez vraiment la possibilité de compléter votre formation, pas seulement axée sur la finance. Là, je vous parle vraiment du cursus ingénierie financière. Et on a aussi on est aussi axé sur l'innovation. L'école des ponts organise déjà... Les nuits de l'entrepreneuriat ou ce genre de choses. Et en fait, c'est complété par des cours à l'école. Donc, en GI, il y a un cours d'atelier entrepreneuriat. Dans le département SEGF, on a le cours de création d'entreprises innovantes. Voilà. Et alors, juste une petite anecdote. On est allé au CEDEB. Donc, c'est Voilà. Et en fait, on a rencontré des gens assez particuliers là-bas. Notamment un Chevaleo, donc c'était un peu des sharks, c'était des gens, des entrepreneurs qui ont déjà une belle expérience en étant jeunes, et ils nous ont dit si j'ai un conseil à vous donner, c'est faites du droit, ça va vous servir. Et en fait, on le voit ici, on a un cours de droit de l'entreprise, et en fait on a vraiment plein de cours qui vont vraiment être très complets et enfin qui vont se compléter les uns les autres et qui vont former un ingénieur financier très, très diversifié. Voilà. Donc, c'est vraiment un département, enfin, en tout cas dans la partie ingénierie financière, qui apporte vraiment une ouverture d'esprit et de la polyvalence. Et de toute façon, d'une manière générale, c'est vraiment bien d'avoir une composante business plus tard, ou voilà, si vous voulez entreprendre, ça, des trucs de compta, de droit, etc. Voilà.
Moi, j'ai pas regardé Wikipédia avant, donc ça va être plus bref. Bon, je m'appelle Vincent, mais je pense qu'il y en a pas mal qui me connaissent aussi. Moi, je suis en parcours économiste, et donc je vais pas parler des mêmes trucs que Laurent, mais avant, il y a un truc sur lequel je veux insister, c'est qu'en fait, la distinction SEGF éco, SEGF financière, en fait, elle est un peu floue, et il y a vraiment la possibilité de choisir les cours qui vous intéressent. Ouais, il y a les obligatoires, mais la plupart, de toute façon, ils sont quand même bien. Et vous choisissez à côté, vous piochez vraiment les cours que vous voulez. Et donc en fait, moi, je suis en éco, mais j'hésite entre partir les grandes institutions, Banque mondiale, ce genre de trucs, ou aller en entreprise. Et du coup, j'ai pris des cours justement en stratégie d'entreprise, choses comme ça, qui peuvent servir ensuite, ce qui fait qu'en fait, j'ai un profil mix. En plus de ça, comme disait Laurent, on peut mixer avec les autres départements, donc on était pas mal à prendre recherche opérationnelle, et c'est vrai que ça se complète très bien avec ce qu'on fait en SEGF. Il y a d'autres départements possibles, il y a pas mal de gens qui prennent TDLog, parce que justement, si vous hésitez entre IMI et SEGF, vous pouvez prendre SEGF et piocher les cours en IMI qui sont bien, ça se complète vachement bien. Donc il y a une grosse flexibilité là-dessus, et le département il fait des efforts, donc ça c'est super appréciable. La partie éco, c'est un petit peu plus que vous avez déjà vu, en économie, parce que c'est vrai que vous n'avez jamais fait de finance, mais vous avez quand même fait 3 heures d'économie pendant tout le premier semestre. Ça va être un peu la même chose, mais vous allez voir que ça devient aussi plus concret, c'est-à-dire qu'on va avoir encore de la macro, puis vous allez avoir économie des transports, économie de l'immobilier, économie de l'environnement. Vous prenez ce qui vous intéresse, et on concrétise un peu les modèles que vous voyez en première année et qui restent parfois un peu flous. Donc c'est en fait ça qui est super cool aussi, c'est que dès le début de l'année, comme disait Laurent, on part une semaine à Fontainebleau, et pendant une semaine on rencontre des directeurs financiers de grosses boîtes, genre Bosch, il y avait le PDG de Ford Canada qui était venu nous parler, enfin voilà. Donc dès le début on est dans le bain avec des mecs qui pèsent, et vous allez voir que du coup la finance, enfin il y a des gens qui font de la finance de marché, des gens qui font de la finance d'entreprise, et ce qui est bien à ce GF, c'est qu'en permanence pendant toute l'année, vous êtes avec des parcours très financiers, des parcours plus éco, enfin un peu de tout. Et vous trouvez ce qui vous intéresse là-dedans et vous ressortez vraiment avec ce que vous voulez faire. Et donc c'est vachement complémentaire, quoi.
Donc moi c'est Aurélie et je suis dans le département SEGF et je suis le cursus finance. Donc Laurent vous a bien présenté ce cursus. Donc je reste à votre disposition si vous avez des questions et vous pouvez. Oui. Alors, moi, je candidate cette année pour le double diplôme à HEC. Et donc, si je suis prise, je passerai l'année prochaine là-bas. Ensuite, je reviendrai pour la 3A au pont et je ferai la 3A à HEC. Et si vous avez des questions sur comment est-ce que ça se passe, là, pour l'instant, je suis encore dans la procédure. Et donc, si vous avez des questions sur la procédure ou tout simplement sur ce qui m'intéressait à HEC, vous pouvez venir me voir sans problème.
Bonsoir à tous. Moi, c'est Arthur. Je suis dans le parcours économiste, moi, pas finance. Et juste pour marquer un petit contrepoint par rapport à ce qui a vraiment été évoqué par Laurent, etc., c'est aussi possible de s'épanouir dans ce département si on n'a pas du tout envie de bosser dans la banque, pas du tout envie de bosser dans des fonds d'investissement, dans le conseil en stratégie, mais qu'on veut plutôt faire vraiment de la macro, de la politique publique, de la prévision économique et des choses qui sont... moins assimilé comme Shark aussi mais qui change, on fait aussi des mathématiques, on a besoin d'un certain nombre d'outils et c'est assez intéressant, mais pas forcément tourné vers les mêmes objectifs et la même manière de penser que dans les grandes banques. Donc si vous avez des questions un peu sur d'autres types de parcours plus vraiment économiste, macroéconomiste, n'hésitez pas.
Bonsoir, oui. Alors moi, je m'appelle Auréliane et j'étais en SEGF, donc maintenant, ça fait un petit moment que j'en suis partie. Donc je pourrais vous donner quelques idées sur ce qu'on fait après SEGF aussi. Alors j'étais dans la filière économie et en fait, ce qui était bien, c'est que je savais que je ne voulais pas faire de la banque, de la finance, mais j'ai quand même pris mes électifs en finance, stratégie financière, c'est quand même un cours qui est très important, même si vous ne vous destinez pas à la stratégie en entreprise. Et le département économie vous fournit des cours assez diversifiés. Vous faites de la macro, de la micro, de l'économie industrielle. Et ensuite, comme l'a dit Dominique Jacquet, vous avez une année de césure que la plupart des élèves font. Donc ce qui est bien, c'est de voir deux choses différentes. Comme j'étais en économie, j'ai plutôt vu une entreprise et une administration publique. Donc j'avais fait, par exemple, stratégie à GDF Suez pendant 6 mois. Et ensuite à la direction du Trésor pendant 6 mois aussi sur des études économiques, donc là en ministère. Et en dernière année, j'ai profité du partenariat donc École des Ponts et École d'économie de Paris. Donc c'était le master APE, analyse et politique économique. Et c'est un master donc initialement qui est vraiment fait pour la recherche. Donc si vous voulez faire une thèse plus tard, c'est vraiment une des formations, une des meilleures formations pour faire de la recherche. Mais si vous êtes intéressé par découvrir plein de domaines différents, vous pouvez aussi y aller. Vous aurez là un master de recherche, donc à la place d'un stage de 6 mois, vous avez un mémoire de recherche à faire avec un chercheur en économie. Et à PSE, donc c'est l'école d'économie de Paris, vous avez Piketty qui est ici, vous avez encore d'autres grands noms, David Spector en économie industrielle par exemple, Thierry Verdier en économie internationale. Donc vous tapez leur nom dans Google, vous tombez sur la page Wikipédia, c'est quand même de grands chercheurs. Et donc si vous avez des questions sur ce parcours-là, parcours ingénieur économiste, et plutôt intéressé donc, par les politiques publiques, et ben, je suis disponible pour répondre à vos questions. Quand j'étais au master APE, donc j'ai fait un mémoire en économie industrielle. Et même si on ne développe pas particulièrement d'expertise technique en SEGF sur un domaine particulier, en fait, on a l'opportunité de voir pas mal de choses. Il y a économie des transports, économie d'énergie, etc. Et donc, je me suis spécialisée en énergie via ce biais-là. Et j'ai fait un mémoire sur les flux financiers sur des marchés électriques, donc avec des innovations sur les effacements diffus. Flux financiers sur les marchés électriques. Et ensuite, j'ai passé à l'issue de ma troisième année le corps des ponts. Donc, c'est le corps pour devenir ingénieur au service de l'État, donc pour travailler dans les ministères, plus généralement dans les opérateurs publics, autorités de régulation, organisations plutôt communautaires, internationales, etc. Et maintenant, effectivement, donc après SEGF, après la césure et après la troisième année APE, si vous intégrez le corps des ponts, donc il y a pas mal d'SEGF en fait, qui intègrent le corps des ponts. Là, sur les trois ponts qui ont intégré le corps, on est deux SEGF. Et ensuite, vous avez une dernière année de formation qui est aussi à l'école des ponts et qui s'appelle le Master PAPDD, politique et action publique pour le développement durable.
Il va y avoir un acte 2, non? C'est quand l'acte 2? 12 avril, acte 2, donc petite classe, etc. Une fois que vous aurez fait votre tournée et que vous commencerez à avoir une petite précision, enfin un feeling plus précis de ce que vous voulez faire. En attendant, pour celles et ceux d'entre vous qui veulent avoir une discussion bilatérale, on continue sur l'esplanade derrière. Et merci de votre participation. Je crois que c'était filmé, donc ce sera disponible sur le truc. Merci à vous.